it comes.
First down!
Here it comes. First down, says Red Cashin.
Fake to Kamara. Hill. Flushed left. Looking. Has no one. Going to tuck it away and run. Going for the end zone. Hill in for the touchdown.
On est de retour à la zone payante. Jean, on vient d'entendre Taysom Hill courir jusque dans la zone des buts pour marquer le toucher qui a, somme toute, scellé la victoire des Saints en fin de semaine. Les Saints, ils sont pas capables de perdre, même quand Drew Brees n'est pas là. Une sixième victoire consécutive pour les Saints sans Drew Brees. C'est quoi les ingrédients qui font en sorte que les Saints gagnent, même quand Drew Brees n'est pas là?
Ben écoute, je vais répondre à ta question après m'être excusé à Sean Payton, parce que la semaine passée, j'ai dit que Sean Payton, il croyait pas en Taysom Hill, puis c'était la raison pourquoi il choisirait, là, évidemment, son autre réserviste là, pour commencer le match, puis ça n'a pas été le cas. Donc, écoute, clairement, il a fait une promesse à Taysom Hill, puis il l'a respecté, puis ça a surpris beaucoup de monde, moi y compris, donc je vais m'excuser à l'organisation des Saints.
Je vais leur envoyer vos excuses.
Faut faire son meilleur culpa de temps en temps. Puis,
me joins à tes excuses, on a vraiment cru tous les deux que c'était Jameis Winston sans équivoque.
Mais ceci étant dit, ils font beaucoup de choses bien. Première des choses, le plan de match était des Saints était adapté aux forces de Taysom Hill. C'était pas exactement le même plan de match, puis la même attaque que les Saints font d'habitude. Et ce qu'il a bien fait aussi, c'est qu'il a bien encadré Taysom Hill avec une bonne attaque au sol. Quand tu regardes où est-ce que Taysom Hill a été très bon, c'est sur les play-action. Puis évidemment, pour que les feintes de course puis les jeux de passe fonctionnent dans ce temps-là, ben ça prend une bonne menace au niveau terrestre. Puis quand tu as du succès au sol, ben évidemment, les play-action, c'est normal que tu aies du succès. Donc ça, c'est une chose qu'ils ont bien fait. Quand tu es capable, justement, d'adapter ton plan de match autour de tes forces du carrière, il faut aussi que le reste de l'équipe suive. Puis évidemment, ils ont beaucoup d'expérience. Ça aide pour Sean Payton à bâtir des plans de match qui sont malléables. Tu es capable de faire appliquer ton plan de match parce que tu as des gars dans ton attaque qui sont habitués. Écoute, le seul joueur, je dirais, qui c'est un peu nouveau pour lui, c'est Emmanuel Sanders. Le reste de l'attaque des Saints, c'est tous des vétérans. Ils sont
Taysom Hill, c'est pas une recrue, là.
Exact. Taysom Hill, ce n'est pas une recrue, ça c'est un autre point. Mais je parle autour de lui. Il y a beaucoup de vétérans dans l'attaque des Saints. Donc, évidemment, tu sais, le fait de changer quelques petites choses, de tweaker, désolé de l'anglicisme, mais de juste modifier certains jeux, certains patrons de passe. C'est pas dur pour eux autres, là. Donc, c'est ça que Sean Payton fait très bien. Puis, l'autre point, écoute, toutes les équipes qui ont de la continuité comme entraîneur-chef, ben ça aussi, ça aide vraiment dans des situations comme ça. Puis, tu sais, tu regardes dans la NFL, qui a de la continuité? Ben, Pete Carroll à Seattle, Sean Payton avec les Saints, puis évidemment, le grand maître Bill Belichick avec les Pats. Ben, ça aide. Assurément, quand il y a une blessure importante, ben, rallier les troupes, garder le plan de match que les joueurs vont comprendre, qu'ils vont être capables d'appliquer. Puis évidemment, ça se transforme en succès.
C'est un match, évidemment. Là, on partira pas en peur, mais quand même.
Exactement. Est-ce que Taysom Hill, c'est le real deal? Est-ce que c'est ça? C'est une autre question. L'échantillon, il est beaucoup trop mince pour juger avec un seul match comme partant. Mais la réalité, c'est qu'il a bien paru. Il a commencé lentement le match. Mais plus le match avançait, je pense, plus il prenait confiance. Puis il a bien fait les choses, il a bien paru. Donc, on va voir son test numéro 2 là, cette semaine.
Moi, c'est pareil. J'ai des doutes sur le long terme. Je pense qu'il peut être un carrière fonctionnel. Mais est-ce que tu lui donnes le ballon 16 matchs, mettons, dans une toute autre attaque? Mettons que dans 2 ans, il signe ailleurs puis que l'équipe veut en faire son carrière à tout faire. Là. Je sais pas si ça fonctionnerait. Il y a quand même beaucoup de passes qui ont manqué de jus, des passes en profondeur, Taysom Hill. Là, ça a été surprenant, ça, cette semaine. C'était pas nécessairement là, les longues passes les plus convaincantes. Donc ça, c'est un élément à surveiller.
Surtout sa passe quasiment diverge, diverge à Emmanuel Sanders, qui s'est ajusté, mais quand même.
Ouais, ben c'est ça. Ça finit par un jeu, mais Taysom Hill... C'est encore, tu sais, je vois beaucoup de gens qui s'emballent. Là. Ah, on vous l'avait dit, puis il était temps qu'il joue, puis tout. Pis... Attendons quand même, là. C'est un match. Puis il y a une chose qui aide les Saints beaucoup, on en parle très peu actuellement. la défensive qui a vraiment repris son air d'aller. Ouais. Écoute, ils n'ont pas donné un toucher aux trois derniers matchs, les Saints. Là. Un toucher offensif, c'est quand même un solide barrage quand tu n'accordes pas de toucher offensif pendant trois matchs de suite. Chapeau là, de ce côté-là.
Puis, il faut aussi mentionner que l'opposition, ça reste que c'était les Falcons, les gars. Là.
À la base de toute la discussion, il y a ça.
Deuxième essai, Steph, on va y aller avec les équipes qui ont eu une mauvaise semaine. Il y en a plusieurs. Là. On se répète, là, je pense que les Eagles, eux, continuent d'avoir à s'enfoncer. Les Pats se sont eux-mêmes sortis des séries en perdant contre Houston, qui avait seulement deux victoires. À Miami, on était dans les playoffs, on ne l'est plus. On a retiré Tua Tagovailoa du match. Mais là, j'aimerais ça qu'on attire notre attention un peu vers les Lions qui ont été blanchis par un QB de la XFL, mais en fait la défensive, mais quand même, là, ils ont été battus par un QB de la XFL. Est-ce que les joueurs sont en train d'envoyer un message à leur propriétaire et leur DG? On veut plus jouer pour Matt Patricia?
Ben, c'est une possibilité forte parce que là, moi, où ça me concerne plus particulièrement, c'est pas tant les défaites parce que les Lions nous ont un peu habitués à ça avec les années.
Là, ils ont perdu 20-0 en fin de semaine contre Caroline.
Exact. Première des choses. 20-0 contre Caroline, un gars qui est à son premier départ, pas chez les professionnels, parce qu'on va quand même compter son expérience dans XFL. Il jouait bien dans la XFL, PJ Walker. Mais c'est une toute autre histoire là, d'amorcer un match dans la NFL. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu regardes les trois dernières défaites des Lions, c'est par au moins 14 points. Ça, c'est inquiétant. T'as des clubs cette année, là, que ce soit les Chargers, que ce soit même les Bengals, les Texans dans plusieurs matchs, ils perdent, mais ils se battent. C'est une bataille, un combat jusqu'à la fin. Ils perdent par 6, 7, 4 points. Quand tu perds par au moins 14, trois fois de suite, il y a comme une roue qui est en train de lâcher, à mon avis. Là. Donc ça, c'est un élément vraiment à surveiller. Puis c'était le premier blanchissage en passant que les Lions subissaient quand Matthew Stafford est le corps arrière. Ça fait un bail qui est là. C'était pas arrivé depuis longtemps. Donc il y a toutes sortes de choses inhabituelles qui se passent à Détroit. On sent là qu'à un moment donné, le vestiaire est pas là, ça semble jouer sans grande motivation. Puis la grande philosophie de Matt Patricia en défensive, c'était d'amener beaucoup de ses vétérans des Patriots là, pour un peu aider à soutenir sa culture. Là, on parle des Jamie Collins, Trey Flowers, Duran Harmon, Danny Shelton. Puis ça semble pas suffire. Tu sais, dès la première saison en 2018, quand il est arrivé, Patricia, il y avait déjà des grosses rumeurs là, de joueurs qui remettaient en doute son style de coaching, sa façon de faire les choses. Puis ça semble pas nécessairement s'estomper. Il y a eu des conflits au fil du temps avec les joueurs. On sait que Darius Slay est parti parce qu'il en pouvait plus. La relation avec Matt Patricia était très mauvaise. Tu sais, c'était quand même un demi de coin qui excellait à Détroit. Donc, tout ça fait en sorte que la relation semble vraiment pas au beau fixe entre les joueurs et l'entraîneur-chef. Il faudra surveiller hein, cette semaine parce que les Lions, s'ils perdent un autre match comme ça là, par un écart important, faudrait pas se surprendre là, que ce soit la fin.
Pour Matt Patricia.
Oui, exactement.
Oui, oui. Jean, toi, es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu le dis depuis le début, puis je retiens souvent tes paroles, Matt Patricia a été embauché pour raffermir la défensive, puis ça marche pas. Est-ce que, pour toi, c'est la défensive qui a perdu le match, même si on fait aucun point, là, il reste qu'ils ont donné souvent le ballon à Détroit pour qu'ils soient en position pour donner des points.
Ouais, ben écoute, dans ce match-là, spécifiquement, non, parce qu'à un moment donné, quand tu te fais blanchir dans la NFL, t'as aucune chance de remporter le match, on s'entend. C'est vraiment l'attaque là, qui a fait défaut, mais tu sais, c'est une défaite qui paraît tellement mal. Tu sais, c'est pas normal de se faire blanchir face à un carrière, un recrue de l'autre côté, qui a pas fait de preuve, qui a pas un gros background non plus. Tu sors flat. C'est ça que tu retiens aussi. Les joueurs qui ne semblaient pas vouloir se battre sur le terrain. Moi, c'est... Puis de l'autre côté, il faut donner beaucoup de crédit à Matt Rule, qui a eu lui aussi un bon plan de match. Puis ces gars, contrairement aux joueurs des Lions, les joueurs des Panthers, ils se battent à chaque match. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est ça aussi, c'est un facteur qu'il faut que tu regardes, l'effort de tes joueurs. Puis dans le cas des Lions, mais c'est très montagne russe, comme c'est souvent le cas à Détroit. À un moment donné, ben écoute, Matt Patricia va payer le prix. J'ai de la difficulté à croire le contraire.
OK, hey, les gars, il était 130 au début pour rentrer dans le temple de la renommée du football. Ils sont plus que 25 maintenant et on va aller en route pour les 5 finalistes qui seront intronisés au temple de la renommée de la NFL. Là, il y en a que c'est leur première année. On parle de Peyton Manning, entre autres. On parle de Calvin Johnson. Mettons que je vous demande, parmi les 25 finalistes qu'on connaît en ce moment, on les énumérera pas tous, mais vous allez pouvoir peut-être en parler. Quels seraient vos 5 finalistes qui devraient être intronisés cette année au Temple de la renommée de la NFL? On va commencer avec Steph.
Ben, en partant, j'ai l'impression qu'on chicanera pas ces deux premiers. Le Peyton Manning, Charles Woodson. Dans ma tête, il n'y a comme aucune discussion possible. Tout le panel d'experts qui vont débattre de ça dans une chambre à 2 mètres de distance, là, quand ce sera le temps de le faire, ou plutôt en virtuel, je pense que la discussion sur ces deux gars-là va durer 34 secondes. Ça va être aussi vite que ça. Donc, pour moi, ça, c'est comme 2 membres garantis. Moi, ensuite, j'ai le goût d'amener Hines Ward dans la discussion. Les chiffres sont là. Il a été performant avec les Steelers sur une très longue période. Puis ce que j'ai aimé par-dessus tout de Hines Ward, c'est que c'était un secondeur dans un corps de receveur. T'sais, il aimait le contact, il a jamais fui le contact. Il a été un excellent bloqueur. Ça a été probablement là. Si c'est pas le meilleur, là, c'est l'un des top 3 dans l'histoire pour au niveau du bloc. Donc, un receveur impliqué dans toutes les phases du jeu là, pour les Steelers pendant de nombreuses années, il a remporté le Super Bowl. Pour moi, il a tout ce qu'il faut sur son CV pour être élu au Temple de la renommée.
Ça fait 5 ans qu'il attend Hines Ward d'être élu.
Il est temps là, qu'on lui fasse une place. C'est difficile à la position de receveur parce qu'il y en a plein. Ça rentre à l'appel dans les dernières années. Tu sais, t'as Reggie Wayne qui est éligible aussi. Calvin Johnson t'en parlait. Torrey Holt. Il y a plusieurs gros noms là, qui sont disponibles.
OK, t'es à 3. Envoye donc.
Ouais, pour le 4e. Tiens, moi, j'y vais avec Rondae Barber. Demi de coin des Buccaneers qui a probablement été sous-estimé dans le sens où il a joué à une époque où les Buccaneers, ben on parlait beaucoup là de Warren Sapp puis de Derek Brooks puis des gros noms en défensive, mais lui aussi il était là. Écoute, il détient plusieurs records de franchise, il détient aussi quelques records dans la NFL, notamment 215 départs de suite. Ça c'est la plus belle marque de longévité là chez des tout demi-défensif confondu. 215 en saison régulière, 224 en incluant les séries. Ça a été un joueur qui a été très durable, très productif. C'est le seul joueur dans l'histoire qui a réussi plus de 45 interceptions et plus de 25 sacs. Le seul dans l'histoire, ça mérite considération. Puis mon 5e, moi, personnellement...
15 ans à Tampa Bay, Rondae Barber, 15 ans avec une seule équipe quand même, puis il a gagné le Super Bowl.
Ouais, exactement. Puis j'aurais le goût de faire une place à John Lynch aussi, qui a été sensationnel avec les Bucks, qui a été excellent même en fin de carrière avec les Broncos. Tu sais, il a été bon dans 2 équipes, ça a été un bon vétéran, très apprécié. Là, on peut pas parler de ses accomplissements comme DG là, parce que c'est pas ça qui est évalué. On sait qu'il est rendu DG des 49ers. C'est pas ça qui est évalué dans la présente là, par le Temple de la renommée. Mais je pense qu'il a été assez convaincant avec 2 équipes pour pouvoir se frayer un chemin. Mais il y a d'excellents candidats. Je suis convaincu que Johnny en a quelques-uns qui sont différents des miens et qui sont tout aussi méritants.
Ben, tout à fait. Écoute, on va commencer, les gars, la liste. Pour moi, Peyton Manning et Charles Woodson, c'est ce qu'on appelle des locks. Là. C'est les deux recrues qui vont être admis au Temple de renommée à leur première
année d'éligibilité. Exact.
Ouais, exact. Pour moi, Calvin Johnson est à l'extérieur de ça. Il n'y aura pas 3 joueurs de première année. J'ai de la difficulté à croire ça. Puis dans le cas de Calvin Johnson, c'est aucunement ses accomplissements sur le terrain. Le problème, c'est sa longévité. Il a juste joué 9 saisons dans la NFL. Il a parti dans son prime. Pour moi, il faudra qu'il attende malheureusement un petit peu. Parce que, écoute, sur le terrain, il était sensationnel. C'est un des bons extraterrestres qu'il y a eu, je pense, dans la NFL.
Hey, il pourrait quasiment encore jouer. Il n'a pas 40 ans.
C'était extrêmement talentueux, Calvin Johnson, mais pour moi, il n'est pas dans la liste qu'on va nommer. Moi, j'ai Richard Seymour, le joueur défensif de ligne défensive des Pats, entre autres. Écoute, 8 fois au Pro Bowl, 3 fois All-Pro. C'est un joueur qui était dominant. C'est un joueur qui demandait respect. Tu étais obligé de le doubler. Puis même quand tu le faisais, il y avait un impact sur le match. Puis je pense pas que la dynastie des Pats aurait été la même s'il avait pas été là. C'est un joueur qui a été vraiment dominant. Oui, par la suite, quand il est parti des Pats, ça n'a pas nécessairement été la même chose. Mais quand même...
Lui nuire, ça, ces 3 saisons à Oakland.
Oui, peut-être que c'est possible. Mais pour moi, il a été tellement fort. Le temps où ce qui a été le plus dominant, son pic était tellement haut que pour moi, t'as pas le choix de l'admettre là, au temps de la renommée. J'ai Reggie Wayne également. L'excellent receveur de passe qui joue avec les Colts. Évidemment, lui aussi a gagné le Super Bowl avec Peyton Manning. Je trouve que ça ferait une belle histoire que Reggie Wayne soit introduit en même temps que son corps arrière. Donc, ça, c'est peut-être...
Introduit.
C'est quoi j'ai dit?
Non, t'as dit introduit, mais c'est intronisé.
On va passer à l'autre. intronisé en même temps là, que Peyton Manning. Fait que Reggie Wayne, écoute, il coche tout ce que tu as besoin. Longévité, c'est là. C'est un joueur qui était sensationnel, très dominant. Un des bons duos qu'il y a eu avec t'as lui puis Marvin Harrison qu'il y a eu avec les Colts. Mais Reggie Wayne, ça a été un excellent duo avec Peyton Manning. Pour moi, très physique aussi hein, comme receveur. Ça, c'est une des choses que j'aimais. Et c'est une chose que Steph a mentionné du côté là, de Hines Ward. Ben, je pense qu'on peut le dire aussi de Reggie Wayne, un excellent bloqueur également. Donc, moi, c'est mon choix personnel. Et mon dernier choix, c'est Steve Tasker. C'est un choix qui est controversé.
Ah, j'adore, moi.
Moi, écoute, Steve Tasker a été...
Pourquoi c'est controversé, Jean?
Parce que c'est un joueur d'unité spéciale, principalement. T'sais? Puis, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'unité spéciale autres que les botteurs qui peuvent être intronisés là, au Temple de la Renommée. Puis Steve Tasker était tellement dominant. Je vous invite à écouter le documentaire Steve Tasker to the Hall of Fame avec quelques points d'interrogation. Ça explique l'importance de Steve Tasker qu'il avait dans les plans de match adverses. Il y en a qui disaient qu'il était plus important de se préparer contre Steve Tasker que contre Thurman Thomas. Ça te donne une idée là, de l'importance que ce gars-là pouvait avoir. Il pouvait changer le match de tellement de façons dans le temps là, des Bills de Buffalo. Moi, je pense qu'il est temps qu'il se fasse récompenser pour tout son travail-là. Puis c'est pas lui en tant que tel qui, tu sais, il voulait jouer à l'attaque, mais c'est c'est Marv Levy qui l'empêchait de jouer à l'attaque. Puis il dit, il est trop bon sur les unités spéciales, on en a trop de besoin. C'est là qu'il faut l'utiliser. Donc, c'est pour ça un peu que comme receveur, il était beaucoup moins utilisé.
OK, ben d'abord, on va passer à 15 finalistes dans les prochains jours et ensuite à 5. On verra si vous avez vu juste, les gars. Après la pause,
Il n'y a pas de mauvais choix non plus, là, on s'entend.
Non, mais il y a des joueurs
qui... Tu regardes la liste des 25, il n'y a pas grand monde qui s'est gênant là-dedans. Là. Je veux dire, il n'y a pas un pied de céleri. C'est tout le temps des grosses, grosses classes. Puis il y a évidemment dans l'histoire des joueurs qui, peut-être injustement, feront jamais le temple ou ils vont être admis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard dans leur vie. Il y en a certains qui le verront même pas de leur vivant. C'est très cruel là, comme processus, mais c'est pour ça que c'est un temple de la renommée. Faut pas que tu récompenses de très bons joueurs, faut que tu récompenses vraiment les légendes.
Puis il y a des gars qui, c'est dans leur dernière chance, là. On parlait de John Lynch, là. Ça fait 9 fois, là, qu'il est semi-finaliste, là, demi-finaliste. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse la course jusqu'à la fin, sinon il sera même plus dans les semi-finalistes.
Exact.
OK. Après la pause des questions à Raphaël, les gars, entre autres, on va se demander, est-ce que les Pats doivent commencer un cycle de reconstruction? Restez là.